Émilie et sa mission continuée. Après ce que nous a dit M. Artigot, nous connaissons donc bien quel a été le milieu familial d'Émilie, comment elle a vécu, les qualités, les vertus qu'elle a puisées dans sa famille. Nous savons aussi qu'elle a beaucoup aidé les pauvres, qu'elle était préoccupée d'être apôtre à Hauterive même, que très souvent elle allait à l'église, que c'était une âme de prière. Et on peut se poser la question, pourquoi a-t-elle voulu se faire religieuse ? Pratiquement, elle faisait du bien là où elle était. Elle avait des biens qui lui permettaient d'aider. Pourquoi renoncer à ses biens, faire un vœu de pauvreté ? Pourquoi se faire religieuse ? Il y a deux réflexions d'Émilie qui me paraissent capitales. Au moment où elle déclare à son père qu'elle veut être fille de la charité et que son père lui oppose un refus, elle lui répond « C'est pour Dieu que je vous quitte ». Je crois que cela situe immédiatement le plan spirituel d'Émilie. Pour elle, Dieu passe avant son père, avant sa famille, avant le bien qu'elle peut faire autour d'elle. Et quelques années plus tard, dans la vie religieuse, déjà, elle écrit « Plus je considère dans l'Eucharistie l'amour de Jésus pour les hommes, plus je découvre celui que nous devons avoir pour le prochain. » Et cette seconde phrase me semble tout à fait complémentaire de la première. « Plus elle regarde Dieu, plus parallèlement Émilie regarde les hommes et veut donc se porter à leur secours, leur venir en aide, être près d'eux. » Je crois aussi qu'elle se rend compte que ce qu'elle fait actuellement dans son village, juste avant d'entrer, va durer un temps. Ses biens, un jour, vont s'épuiser. Si elle fonde une famille religieuse, elle perpétue du même coup son œuvre, l'action qu'elle peut avoir. Nous avons déjà rapidement, à travers ce que je viens de dire, signalé trois aspects importants d'une vie religieuse, aspects importants de la vie d'Émilie, aspects importants dans nos vies. La primauté de Dieu sur tout. Je pense d'ailleurs que c'est pourquoi Émilie nous a laissé comme devise « Dieu seul ». Ce qui ne veut pas dire que nous allons regarder Dieu en excluant les personnes ou en excluant le monde, mais comme Émilie, plus nous regarderons Dieu, plus nous regarderons les hommes. Nous avons situé aussi cette soif apostolique qui est la sienne, cette présence auprès des autres, de ceux qui auront besoin d'elle. Et puis, fondant une congrégation, nous avons situé l'aspect de la vie communautaire. Dans nos vies aujourd'hui de sœurs bleues, la prière a une place importante. Nous y consacrons au moins 2h30 par jour. Je me souviens d'une élève qui me disait « Je ne vous vois jamais prier ». Elle oubliait que je me levais à 5h30 le matin pour prier avant qu'elle n'arrive et que le soir, quand elle avait quitté le pensionnat, je priais encore. La prière prend donc une place importante dans nos vies, prière communautaire, personnelle, liturgique. La vie apostolique est importante, nous le verrons dans la seconde partie de la conférence. Et la vie communautaire est aussi pour nous importante. Nous vivons en communauté, avec toutes les richesses que peut apporter la vie de communauté, par les échanges, par le mélange des nationalités, des races, des générations, par les apports, la complémentarité qui existe entre nous, ce qui ne veut pas dire que la vie en communauté est toujours facile. Nous sommes des femmes, nous avons chacune nos tempéraments, nos défauts, notre caractère, et bien sûr, il y a parfois entre nous des frottements, mais je pense qu'il est tout simplement chrétien de les surmonter et de vivre la réconciliation. Je pense d'ailleurs qu'il doit en être de même dans un ménage, mais je n'ai pas l'expérience. En plus de ces trois caractéristiques de la vie religieuse, bien sûr, Émilie veut pratiquer les trois vœux qui font un fondement de la vie religieuse, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. L'obéissance, elle va nous en donner un exemple très frappant, très marquant dans sa vie, car bien que supérieure générale, elle a profondément obéi, nous le verrons. La pauvreté, elle a voulu la vivre, elle qui venait d'un milieu aisé. Elle a donc abandonné tout ce qu'elle avait pour servir, et elle nous demande à nous aussi d'être pauvres. Je me dis que parfois ça peut peut-être vous faire sourire de dire que nous sommes pauvres quand on voit nos bâtiments, par exemple. Mais je pense que la pauvreté ne se situe pas à ce niveau-là. Nous savons ce que c'est que travailler pour gagner notre vie. Évidemment, nous ne sommes pas dans la misère et nous ne sommes pas dans la mendicité. Mais nous savons aussi ce que c'est que le partage. Aucune de nous ne dispose de son argent. Je n'ai absolument rien sur moi aujourd'hui même, d'ailleurs. Et nous mettons tout en commun. Et cette mise en commun nous permet de venir en aide à bien des détresses, à bien des nécessités. Vous vous en verrez tout à l'heure des exemples. Donc, c'est la pauvreté est réelle. Et nous vivons la chasteté, non pas pour un repliement sur nous-mêmes, non pas dans un égoïsme ou dans une peur de la vie, mais parce que nous sommes persuadés que cette chasteté nous donne un rayon plus grand d'action, parce que nous sommes persuadés que cette chasteté se transforme en une fécondité spirituelle. Je n'ai pas l'intention de vous faire un exposé sur la vie religieuse, mais je tenais quand même à signaler ces points qui me semblent importants. La fondation d'une congrégation religieuse à orientation apostolique est toujours étroitement liée à un besoin social de l'époque. Émilie, nous le savons, M. Artigot nous l'a dit l'autre jour, est restée à Toulouse chez sa grand-mère après la mort de sa mère, de 14 à 21 ans, plus ou moins, et elle a pu voir à Toulouse ce qu'est la société. Elle a vu la société riche qui fréquentait les salons de sa grand-mère, mais elle a vu aussi ce qu'est le milieu pauvre. Elle a vu des enfants de 9-10 ans venir des campagnes pour chercher du travail. Elle a certainement entendu Mgr d'Astros, qui était évêque de Toulouse à l'époque, qui demandait des instituteurs pour les garçons et les filles, des instituteurs chrétiens, chrétiennes. Elle a vu aussi le problème de la prostitution. Elle a vu sur le canal du Midi construit par, enfin prévu, projeté par un proche parent, elle a vu tous ces ouvriers qui étaient là, qui peinaient, et leurs enfants qui n'avaient pas grand-chose autour d'eux. Revenue à Hauterive, elle a connu aussi les problèmes de la campagne, du monde rural. Et puis n'oublions pas que son père avait été maire de Castres, et qu'ensuite il a été conseiller municipal, et qu'il est à peu près sûr que dans ses conversations au château, il rapportait tous les problèmes qu'il vivait. Or, nous savons aussi que M. de Villeneuve était très industrieux, et qu'il avait été, avant l'heure peut-être, celui qui s'était préoccupé du sort des ruraux, et qui avait ouvert une petite industrie sur son propre terrain pour leur venir en aide. Or, à Hauterive, à cette époque-là, qui avait-il comme interlocuteur ? Il avait Émilie. Donc Émilie a été nourrie de tout ce contexte social, et son âme ardente, son cœur désireux d'aimer, a pensé qu'il fallait absolument faire quelque chose. Je pense que c'est le motif pour lequel, quand son père lui a refusé d'être fille de la charité, elle a décidé, sur le conseil de M. de Barre, donc, de fonder une congrégation. Et au moment de sa prise d'habit, le 8 décembre 1836, au moment où elle revêt l'habit bleu, Émilie prend la résolution, elle le dit, « Je prends la résolution de me consacrer au service des pauvres et des membres souffrants de Jésus-Christ. » Il est possible que cette résolution soit aussi inspirée par son désir d'être fille de la charité, puisque tout le monde sait que les filles de la charité sont très données au service des pauvres. Pour ma part, j'ai toujours été très surprise de voir que l'évêque d'Albi, Mgr de Gouali, acceptait cette fondation de congrégation de la part d'une jeune fille de 24 ans qui n'avait pas de compagne. Elle en avait deux au moment où elle a pris l'habit, qui apparemment n'avait pas d'œuvre déjà prévue, qui n'avait pas à côté d'elle un prêtre ou un évêque pour la soutenir fortement. Monsieur l'abbé Nastorgue nous a dit il y a très peu de jours qu'il y avait quelques congrégations féminines qui étaient purement féminines, c'est le cas. Et l'évêque donne sa bénédiction, je pense que c'est une grâce, une bénédiction de Dieu. L'évêque donne sa bénédiction pour ce début de fondation, et donc le 8 décembre 1836, il accepte les vœux d'Émilie. Ce n'est que le 19 mars de l'année suivante que les trois sœurs vont entreprendre une petite activité. Elles ouvrent à la rue Tolosane un petit ouvroir où elles reçoivent une trentaine de jeunes filles ou de fillettes à qui elles vont apprendre la couture, la coupe, le rentrayage. Donc elles vont, et c'est très caractéristique de l'attitude d'Émilie, elles vont immédiatement chercher à donner à ces jeunes un moyen de gagner leur vie, un moyen honnête de gagner leur vie. Monsieur Nastorg nous a parlé de la révolte des couturières de Castres, qui pensaient qu'on leur faisait concurrence. Il faut dire que la mère de Villeneuve a toujours tenu à ce que le travail soit fait et bien fait. C'est une de ses caractéristiques, le sens du devoir est chez elle très fort. Et voilà que, en janvier 1838, la municipalité de la ville de Castres demande à la communauté de prendre en charge le soin des prisonniers de la ville. C'est à la misère morale que s'adresse donc l'œuvre qui va être entreprise. Et les cahiers des charges de l'époque nous renseignent un peu sur ce qu'était le travail des sœurs dans cette œuvre des prisons. Je vais vous lire un passage de ce cahier des charges qui me semble intéressant pour deux motifs. L'un, pour voir comment les prisonniers étaient traités de la part de la ville, parce que nous allons voir les exigences, et peut-être essayer de nous rendre compte aussi ce qu'était le travail d'Émilie et de deux de ses compagnes, puisqu'à cette époque-là, il n'était encore que trois religieuses dans la maison. Elles avaient d'ailleurs dû prendre un domestique pour les aider. L'entrepreneur, dit le cahier des charges, donc entendez les religieuses de l'Immaculée Conception, l'entrepreneur sera tenu de pourvoir à la nourriture et à l'entretien des prisonniers. La ration complète à fournir par jour à chaque individu sera composée premièrement de 75 décagrammes de pain fait avec de la farine de pur froment des meilleures qualités à 10% d'extraction de son. Le pain devra être bien préparé et bien cuit. Il ne sera délivré que le lendemain de la cuisson. La distribution en sera faite tous les jours. Deuxièmement, d'un litre de soupe composée dans les proportions suivantes calculées pour 50 individus. 15 kg de pommes de terre de bonne qualité et bien épluchées. Un demi-décalitre de carottes ou de navets bien épluchés et coupés, ou d'autres légumes en proportions telles que pois, fèves et haricots frais suivant la saison. Un litre d'oseille épluchée et hachée, ou un demi-litre de vinaigre. 3 kg de pain blanc rassis de pur froment, 1/2 kg de sel, 5 g de poivre et 700 g de graisse de porc fondue et bien épurée. Dans la saison où les pommes de terre germent, les 15 kg qui entrent dans la composition des 50 rations de soupe seront remplacés par 4,5 kg de pois, de fèves, de lentilles ou de haricots secs, ou par 8 kg des mêmes légumes verts, en variant autant que possible l'emploi de ces légumes. Troisièmement, de la quantité d'eau nécessaire pour la boisson de chaque détenu, et à laquelle il sera ajouté pendant tout le temps que le médecin des prisons jugera à propos de l'ordonner, une quantité suffisante de vinaigre pour l'assainir et en outre de l'eau nécessaire pour usage de propreté évaluée à 7 litres par individu. Quatrièmement, d'une botte de paille par semaine bien sèche, de bonne qualité et du poids de 5 kg. Indépendamment de ces fournitures, l'entrepreneur sera tenu de faire blanchir une chemise par semaine à chaque individu, de le faire raser le samedi, de lui faire couper les cheveux tous les 2 mois et de fournir les balais nécessaires pour le service des prisons. Un dernier article important, les balayures lui appartiendront. À la charge par lui de les balayer tous les jours hors de la prison. Et De 1837 à 1853, les sœurs s'occuperont du soin des prisonniers à Castres. Il paraît que ce n'était pas toujours une chose très facile. Sœur Françoise était particulièrement donnée à cette charge et les archives de la congrégation racontent que plus d'une fois, elle a reçu des bols de soupe en pleine figure, qu'elle a entendu un vocabulaire pas toujours édifiant et que les prisonniers riaient quand elle voulait leur faire réciter le bénédicité avant le repas. Dès mai 1836-38, il a fallu quitter la rue Tolosane, les pensionnaires devenaient plus nombreuses et des postulantes commençaient à se présenter. Pendant 2 ans, la petite communauté devient locataire des Dames de la Présentation dans l'ancien petit séminaire. À ce moment-là, on renvoie les externes parce qu'on n'a pas assez de place. 40 pensionnaires remplissent la maison. Et dès 1840, la communauté commence à essaimer. Le curé de Saïs, qui a sa sœur postulante chez nous, demande des sœurs pour sa paroisse. École communale, visite des malades, catéchisme de persévérance, groupe de jeunes filles et entretien de l'église, voilà ce que les sœurs entreprendront partout où elles seront. Or, il nous semble retrouver dans ce mode de fondation exactement ce que vivait Émilie à Hauterive. Émilie, je vous l'ai dit tout à l'heure, était très préoccupée par le sens du devoir. Il est autre chose aussi sur lequel elle veille beaucoup, c'est l'approche des personnes. Être près des autres pour pouvoir les conduire à Dieu, c'est un de ses objectifs premiers. Dans les écoles, disait-elle, il faut jeter la semence de la vertu dans les jeunes cœurs, les former à la piété, leur donner une instruction solide et convenable à leur position sociale, leur apprendre à travailler. Après le curé de Saïs, c'est celui de Massac qui demande des sœurs. Alors là, je vais être très brève, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Nous ne sommes restés que 2 ans à Massac, parce que monsieur le curé de l'époque, monsieur Roucoul, a trouvé que les sœurs bleues étaient trop riches pour vivre avec lui. Je pense que monsieur Roucoul était d'origine rurale, et Émilie avait quand même une teinte urbaine très forte, ce qui peut expliquer le manque de concordance entre leurs idées. On raconte dans la congrégation, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, qu'un jour où il pleuvait fortement, nos sœurs ont dû sortir de la maison pour aller à l'église et chacune avait un parapluie, ce qui était un signe de richesse. Et un autre récit que l'on fait, c'est que monsieur le curé est arrivé un jour à la maison pendant que les sœurs prenaient leur repas et chacune avait un œuf dur, alors qu'avec un demi, ça aurait suffi. Donc nous ne sommes restés que 2 ans à Massac. Arfon a été ouvert en 1846, Castelnau-Moratti en 1847, et tout cela manifeste le développement de l'Institut. C'est alors qu'Émilie pense qu'il serait temps que les Sœurs Bleues aient un logement propre bien à elles. Et elle entreprend la construction de la maison mère. Située sur la colline du Crabier, c'est Émilie de Villeneuve qui a fait construire cette maison. C'est elle-même qui en a dressé les plans et qui a suivi les travaux de construction. On peut s'étonner d'une telle construction à une époque où il n'y avait dans la congrégation que 26 sœurs. Nous y sommes en ce moment beaucoup plus nombreuses. Donc Émilie avait des vues d'avenir probablement très importantes. Et nous pensons que d'autre part, elle a été influencée par le milieu dans lequel elle a vécu. Dans les constitutions qu'elle prépare pour sa congrégation, elle inscrit en 1842 que les sœurs feront un quatrième vœu, celui de travailler au salut des âmes. Aujourd'hui, on dirait de faire de l'évangélisation. Or, elle veut que nous nous adressions aux âmes pauvres. Ces âmes pauvres, Émilie les voit à ce moment-là surtout en 2 directions, le refuge et les missions lointaines. Le refuge était une de ses œuvres de prédilection. Elle écrit « À l'exemple du Dieu Sauveur, les sœurs de l'Immaculée Conception ouvriront leurs bras, leur cœur et même leur maison aux pauvres repentis. Elles accueilleront avec tendresse ces âmes égarées et n'oublieront rien pour les rendre à la vertu. Et puis, pour les ramener à Dieu, elles les traiteront toujours avec douceur et affection. Cette approche des personnes dont nous avons déjà parlé. Longuement préparée par la mère fondatrice elle-même, le refuge s'ouvrira le 22 juillet 1846. Émilie a visité avant des refuges à Toulouse, à Cahors, à Bordeaux, et elle a voulu vraiment, vraiment faire de cette œuvre une chose très nécessaire à l'époque à Castres à cause de tous les problèmes de prostitution qu'on y trouvait. Nous verrons d'ailleurs un peu plus tard que ce refuge a été pour nous très important au moment de l'époque des persécutions. Le refuge vivait du travail des filles elles-mêmes. Et elles faisaient du raccommodage, de la lingerie, de la couture, du rentrayage. Et elles savaient fort bien qu'elles ne vivraient que dans la fonction où elles travailleraient. Mais les âmes, nous l'avons dit, pour la mère de Villeneuve, c'est aussi celles qui n'ont pas eu encore le bonheur de connaître Dieu. Les missions étaient à l'ordre du jour à cette époque, M. Nastorgue nous l'a rappelé, et Émilie avait sans doute entendu très fréquemment son père lui parler de ses récits d'officier de marine. Dès 1837, elle avait donné à sa congrégation Saint-François-Xavier comme patron, Saint-François-Xavier le grand apôtre des Indes, et en 1840, elle écrivait « La congrégation a encore pour fin de se dévouer à la belle œuvre des missions étrangères, surtout des missions des nègres et généralement des peuples les plus délaissés et les plus méprisés. Les sœurs quitteront avec courage le sol qui les a vus naître, romperont tous les liens qui les attachent à leur famille et à leurs sœurs et se rendront où la volonté de Dieu les appellera. » En 1842, notre mère fondatrice se rend à Paris où elle voudrait rencontrer le père Liberman qui vient de fonder la société des Pères du Cœur de Marie, une société totalement missionnaire, et elle voudrait mettre en commun leurs projets sur l'Afrique. Je vais faire une toute petite parenthèse ici pour vous parler des voyages. La mère de Villeneuve était certainement une femme d'avant-garde. Elle a voyagé énormément. Elle n'aimait pas beaucoup quitter sa communauté. Cependant, dans les 18 années de sa vie religieuse, elle a été au moins 6 fois à Paris, à une époque où les voyages n'étaient pas ce qu'ils sont de nos jours. La diligence, le bateau à vapeur pour aller à Brest, car elle est allée à Brest, à Amiens, et très souvent dans les environs immédiats. Quand elle partait en voyage, elle écrivait très fréquemment à sa communauté, et je vais vous citer un passage d'une lettre de la mère de Villeneuve à sa communauté. « J'aime retrouver à travers cette lettre la femme tout à fait normale, comme nous disait M. Nastorgue il y a une quinzaine de jours. » Jusqu'à présent, elle écrit donc en arrivant à Paris. C'est une lettre faite en plusieurs étapes. « Jusqu'à présent, nous avons fait on ne peut mieux notre route. Je ne suis pas du tout fatiguée. » Voilà cependant 2 jours et 2 nuits que nous sommes en voiture. Nous dormons la nuit tant bien que mal, et le jour, nous regardons le pays qui est varié et joli. Les postillons nous ont un peu distraits par leurs jurements, par lesquels ils voulaient, je pense, gronder les chevaux, qui en général sont assez méchants. Cependant, il n'arrive aucun accident, sauf un cheval abattu que l'on a lâché sans difficulté. Hier, nous nous sommes arrêtés dans une auberge, un peu triste, il est vrai. Mère Hélène prétend que la maîtresse avait l'air d'une sorcière. À vrai dire, maîtresse et domestique avaient l'air extraordinaires. Cependant, nous avons fort bien dîné. Malgré la pluie, aujourd'hui, nous avons pu jouir de la vue. Nous avons surtout admiré dans le Limousin une grande quantité de châtaigniers, ce qui m'engagera à faire une fondation dans ce pays, me souvenant que quelques sœurs aiment beaucoup les châtaignes. Au reste, il ne manque pas de pauvres dans ce pays. Pour les précipices dont on parle, je n'ai su les apercevoir. Il est vrai que je n'avais pas mis mes besicles, dont cependant je me suis servi pour voir la cathédrale d'Orléans qui est magnifique. Nous y sommes allés faire nos prières. Orléans est une ville charmante. Il faut bien passer le temps et me consoler d'être si loin de Castres. Moi, j'aime beaucoup ce style de lettre. Parce qu'on sent une femme qui s'intéresse à tout, qui a le sens de l'humour, qui a du bon sens. Il faut peut-être rappeler que la première ligne pour voyageurs ne fonctionne en France qu'en 1827 et sur 14 kilomètres seulement, avec des wagons tirés par des chevaux. Vapeurs et chevaux seront utilisés entre Saint-Étienne et Lyon en 1832, et le 24 août 1837, on inaugure la ligne Paris-Saint-Germain entièrement à vapeur. Or, les voyages de notre mère se situent en 1842, donc à cette époque. Et à cette même époque, un savant, Arago, écrit « Il est possible qu'une machine éclate dans un tunnel. Là, vous auriez à craindre les coups directs et les coups réfléchis. Là, vous auriez à craindre que la voûte ne s'éboulât sur vos têtes. On rencontrera dans les tunnels une température de 8 degrés réaumur, venant d'en subir une de 40 ou 45. J'affirme sans hésiter que dans ce passage subi du froid au chaud, les personnes sujettes à la transpiration seront incommodées, qu'elles gagneront des fluxions de poitrine, des pleurésies, des catarrhes. » Comment s'étonner de la crainte de Mère Hélène ? Et comment ne pas apprécier le courage de la mère de Villeneuve et son adaptation au temps ? Mais revenons aux missions. 1845 amène des épreuves, des projets pour partir en mission échouent. La congrégation n'a pas de quoi payer les voyages des premières missionnaires, et personne ne les paie, bien sûr. À Castres, on continue à prier pour que le Seigneur manifeste sa volonté. Enfin, en 1847, il semble que les départs en Afrique vont se préciser. C'est alors que Mère de Villeneuve désigne quatre sœurs pour partir en Afrique. Sœur Joséphine qui a 29 ans, Sœur Paul qui en a 35, Sœur Cécile 26 et Sœur Louise 31. Ces quatre premières missionnaires ne peuvent pas ignorer ce qui les attend. Toutes ont eu connaissance d'une lettre envoyée par le vicaire apostolique des Deux Guinées. La prudence demande absolument que j'entre en détail sur les obstacles qu'offre cette mission nouvelle. Le premier et le plus formidable des obstacles temporels est le climat. Il suffit de dire que, selon l'opinion générale, il n'y en a pas de plus mauvais, au point que cette côte occidentale de l'Afrique s'est acquis le titre de « sépulcre des Blancs ». En second lieu, les habitants sont parfaitement sauvages là où se trouvent les missionnaires catholiques. Ce pays, madame, est dépourvu de tout, en sorte que les missionnaires doivent y transporter jusqu'à leur maison. Je crois devoir vous prévenir que l'effet des fièvres africaines est d'affaiblir tant l'esprit que le corps, produisant la mélancolie et le découragement. Si sur cet exposé même abrégé que je vous fais, il se trouvait de vos saintes filles qui voulussent se dévouer à cette grande œuvre, je n'ai pas de terme pour vous exprimer la joie que cela me causerait. Leurs occupations seraient d'enseigner les femmes et les filles, de soigner les objets d'église. Cela ne décourage absolument pas ni Mère Marie de Villeneuve, ni les quatre sœurs destinées aux missions. Et juste au moment de leur départ, la Mère Marie leur adresse ces paroles. « Fut-il jamais de plus sublime mission que celle de faire connaître Dieu, de le faire servir et aimer par des âmes qui n'auraient jamais eu ce bonheur ? Vos cœurs doivent être remplis d'un amour généreux qui s'offre avec courage et un abandon entier à tous les genres de sacrifices, quelque coûteux qu'ils puissent être à la nature. Dieu seul doit être votre appui, votre consolation. Que pourriez-vous craindre alors ? Animez-vous d'une confiance inébranlable et laissez faire en paix le Seigneur. » Le 22 novembre 1847, la mère de Villeneuve et les quatre premières missionnaires quittent Castres, s'arrêtent à Toulouse, vont jusqu'à Bordeaux, remontent par la mer jusqu'à Brest, et elles ne partiront finalement de Brest que le 24 décembre, parce que les vents étaient contraires et que le bateau ne pouvait pas partir, parce qu'il s'agit bien sûr d'un bateau à voile. Quand elles arrivent donc à Gorée, au mois de janvier, Gorée, c'est une île qui est à la presqu'île de Dakar, où sont tous les fonctionnaires et tous les administrateurs. Et la mère fondatrice dit à nos quatre sœurs, ne restez pas à Gorée. Je vous ai envoyé pour les Africains et non pour les Blancs. Donc elle passe sur le continent le plus rapidement possible. Or, il arrive que 4 ou 5 mois à peine après leur arrivée, celle qui était désignée comme supérieure du groupe, la mère Joséphine, est complètement ébranlée dans sa santé, elle devient folle. Et à tel point qu'il ne peut être question de la laisser en Afrique. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elles sont quatre. Donc une va réaccompagner la sœur malade en France et les deux autres vont rester sur le continent. Quand la mère de Villeneuve voit arriver à Castres la sœur Paul, accompagnée de la sœur Joséphine dans cet état, elle dit « Qui veut partir à sa place ?» Et immédiatement, les mains se lèvent. Moi, j'admire beaucoup ces actes de courage. Et je pense que, je ne sais pas, je me dis souvent qu'à la place de la mère de Villeneuve, j'aurais peut-être dit « Tu as été imprudente, qu'est-ce que tu as fait ?» On sent qu'elle comptait sur le Seigneur avant tout et ça, c'est très fort pour nous. Les sœurs reviennent donc. Un second contingent part rapidement. Elles partent quatre. Donc, elles sont six maintenant. Trois restent à Dakar et trois partent au Gabon, c'est-à-dire à plus de 500 lieues au sud. Et au Gabon, nos sœurs travailleront comme religieuses, seules religieuses, pendant plus de 100 ans. Actuellement, il y a beaucoup d'autres congrégations avec nous. Les années passent, je vais abréger. Notons au passage que la mère de Villeneuve oppose un refus formel à une proposition qui lui est faite de dépendre de la congrégation fondée par le père Liberman. Elle dit textuellement ceci, « Je ne voudrais pas m'agréger à la congrégation du Saint-Esprit comme le sont les sœurs de charité avec les lazaristes. Quel que soit le parti que nous prenions, je désire que notre administration soit libre et indépendante, que ça soit la supérieure générale qui conduise et dirige l'Institut. » La promotion de la femme, me disait il y a quelques années un conseiller municipal d'une ville du sud de la France, qui n'est pas Castres d'ailleurs, il me disait la promotion de la femme, de laquelle on parle tant aujourd'hui, il y a longtemps que dans les congrégations religieuses vous l'avez réalisée. Et c'est un peu ce que nous disait M. Labenastorg dans sa dernière conférence. Parallèlement, en France, les fondations se multiplient. Humble fondation de la campagne castraise, une école, un patronage, un dispensaire, de quoi occuper 3 ou 4 sœurs et changer la mentalité d'un village. Puis tout d'un coup, c'est une fondation à Paris, rendue nécessaire pour toutes les formalités administratives qui accompagnent les départs en mission. Et à Paris, mère de Villeneuve décide que l'on va ouvrir un pensionnat destiné aux jeunes filles des classes moyennes de la société. Elle trace un programme d'études assez complet, mais la première remarque est celle-ci qui dépeint bien son esprit. Les religieuses ont pour but d'élever d'excellentes chrétiennes d'abord, puis de bonnes femmes de ménage capables de tout faire par elles-mêmes dans leur maison, ou tout au moins de tout diriger. Elles seront donc formées avec soin à toute espèce de travail manuel, à la tenue des comptes et au bon ordre d'une maison. Et aux sœurs qui sont employées auprès des élèves, elle dit « Regardez-vous comme comptable à Dieu et à la société des principes que les jeunes puisent auprès de vous et qui doivent exercer une si grande influence sur leur vie de chrétienne, d'épouse et de mère. » C'est donc tout un système éducatif que nous essayons de suivre encore aujourd'hui. La congrégation est fondée depuis 17 ans. Elle semble assez solidement établie. Il y a 8 maisons en France. Il y en a 4 en Afrique. Elle a été approuvée par Rome en 1852, selon le rêve caressé depuis longtemps par la mère de Villeneuve, qui se voulait ultramontaine et non gallicane. Monsieur Nastorg nous disait l'autre jour que si elle a obtenu ça, c'est parce qu'elle s'est adressée à la congrégation de la propagande. Et l'avenir semble donc s'annoncer avec optimisme. Or, le 6 septembre 1853, sans que rien ne l'ait absolument laissé prévoir, parce que la mère de Villeneuve a bien gardé son secret, à une réunion plénière de congrégation, elle donne sa démission. Elle ne veut plus être supérieure générale. Qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée? Elle a peur de la responsabilité? Elle nous donne elle-même les motifs de cette démission. Il y a longtemps qu'elle souhaite pratiquer l'obéissance qu'elle demande à ses sœurs. La pauvreté, la chasteté, elle pouvait la pratiquer comme tout le monde. L'obéissance un peu moins du fait de sa fonction. Elle y voit aussi son propre avantage spirituel par la pratique de l'humilité et de l'obéissance. Elle y voit l'avantage de la congrégation qui un jour devra bien se passer d'elle. Elle désire que les sœurs vivent dans la foi, la relation avec une supérieure, et non avec la confiance et l'affection qu'elle lui voue. Il y a 18 ans seulement que la congrégation est fondée. Elle a 42 ans. On pourrait penser qu'à 42 ans, elle est en pleine force de l'âge pour continuer. La pauvre mère Hélène, élue pour remplacer la mère de Villeneuve, se soumet dans la foi, comme le lui demande la mère de Villeneuve, et elle gardera la mère de Villeneuve comme assistante. Mais Dieu va plus loin encore dans ses exigences. Alors qu'une épidémie de choléra s'abat sur le midi de la France en 1854, la mère de Villeneuve en est l'unique victime au couvent, et l'on murmure qu'elle a offert sa vie pour la cessation du fléau. Elle a été malade 3 jours. Un an juste après sa démission. Il semblerait que Dieu ait préparé le terrain à cette mort. Toujours est-il qu'après la mort de la mère de Villeneuve, la terrible maladie ne fauche plus personne à Castres. S'il me fallait résumer la personnalité morale d'Émilie de Villeneuve, voilà ce que je dirais. La primauté donnée à Dieu dans toute sa vie. Une soif missionnaire extraordinaire. Et quand je dis soif missionnaire, je ne parle pas seulement de l'Afrique. Je parle d'une soif missionnaire qui se vit même à Castres, qui se vit à Saïs, ou qui se vit dans toutes les fondations où nous sommes, c'est-à-dire de la conquête des âmes à Dieu. Le renoncement à elle-même, qui implique une vie de donation. Le courage, qui ne se rebute d'aucune difficulté. Son attention aux pauvres, aux petits, dans le respect de la dignité de leur personne. Un profond esprit de famille au sein de la congrégation et avec l'entourage. Une attitude tout à la fois surnaturelle et très cordiale. Une joie sereine, fruit d'une certitude que Dieu est au fond de tout événement. Elle nous dit à nous, bannissez la tristesse. Et elle dit encore, ce que nous ne vivons peut-être pas toujours, le mot « contrarié » n'est pas dans le dictionnaire des Sœurs de l'Immaculée Conception. Enfin, et ce n'est pas le moins important, elle nous a laissé cette dévotion à Marie Immaculée, celle qui, plus que personne, peut nous conduire à Jésus. Elle nous dit « plus les sœurs acquerront de ressemblance avec la mère, plus elles plairont au Fils ». Plus elles aimeront Marie, plus leur amour pour Jésus deviendra pur et généreux. Nous allons essayer de voir maintenant, dans cette seconde partie, si la congrégation a suivi l'exemple qui lui a été donné par la mère de Villeneuve et actuellement comment nous essayons de répondre à ce qu'elle nous a laissé. La mort de la bonne mère ne marque pas une fin, mais un désir très fort, au contraire, de suivre sa lancée et de vivre de son esprit. C'est l'époque où Napoléon III apprécie les avantages de l'école catholique, M. Nastorgue nous l'a dit. La congrégation en profite pour ouvrir nombre de petites écoles, la Cabarède, le Castéra, l'Aréole, Cadix, l'Espinassière, Avitz, la Bessonnier, Cadour, Navès. C'est des noms connus pour la majorité d'entre vous. De plus importantes aussi, Toulouse, Saint-Gaudens. Mais nous n'allons pas prendre en détail l'histoire. de toutes nos fondations. Nous allons simplement relever deux étapes de notre vie. En 1886, nous sommes appelés au Portugal. Ce sera le premier pays européen, après la France, dans lequel nous travaillerons. Nous sommes appelés au Portugal pour nous occuper d'un foyer d'enfants, des orphelines. Et ensuite, on nous confiera, dans la même, au Portugal également, un foyer de vieillards. Le premier foyer de vieillards de la congrégation. Les sœurs travailleront à Lisbonne et à Campo Maior jusqu'en 1886-1910. À cette époque, la Révolution les chasse, et dans quelles conditions? La supérieure écrit: dans la nuit de jeudi, les insurgés sont venus nous faire une visite, et quelle visite! Ils étaient au nombre de 15. Ils sont venus tous armés. On fait une visite minutieuse pour voir si nous n'avions pas chez nous des prêtres. Ils nous ont laissé la vie, car bien qu'ils nous aient visés, Dieu ne leur a pas permis d'exécuter leur dessein. Ce qu'elle ne dit pas là, c'est qu'elle-même était visée, mais qu'une jeune sœur portugaise s'est faufilée à côté du révolutionnaire et lui a touché le coude. La balle a dévié et a enlevé le pendant d'oreille de la petite orpheline qui était à côté de la supérieure. Ils nous sont arrivés ivres de sang, car ils venaient de tuer trois pères lazaristes et ils se faisaient gloire de cette prouesse. Donc en 1910, c'est un adieu définitif au Portugal. En France, dès 1882, s'annonce une période difficile. D'abord, il y a la suppression de l'obligation de l'instruction religieuse dans les écoles communales. Or, beaucoup de nos sœurs sont institutrices communales. Et leur demander de faire la classe sans enseigner la religion, elles ne peuvent pas l'admettre. Notre quatrième vœu nous fait une obligation de proclamer notre foi. La Compagnie de Jésus est dispersée à la même époque. La gratuité et la laïcité de l'école privée sont votées par Jules Ferry. Et nombre de difficultés qui ne vont aller qu'en augmentant se manifestent. Et en particulier, la situation financière devient difficile, puisque les maîtresses des écoles ne sont pas rétribuées. En 1893, quand Mère Théodosie assume le généralat, il y a dans la congrégation 24 maisons, 246 sœurs, 32 novices et 29 postulantes. On pourrait penser que tout va bien. Mais 1895 s'annonce mal. Et Mère Théodosie écrit: si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'avenir n'est pas à nos ennemis, il est à Dieu. Plus le temps passe, plus le ciel s'assombrit. Et en 1898, c'est le premier coup de lance. Sémalens, La Cabarède, Arfon doivent être laïcisés. Ce n'est pourtant qu'en octobre 1902 que ces décisions passeront à exécution, et alors 13 maisons seront fermées entre le 1er octobre 1902 et le 7 octobre 1903. En un an, 13 maisons, et 4 suivront, donc 17 au total. On s'imagine mal, aujourd'hui même, ce que ça a pu être. Toutes ces sœurs rentrant à Castres, les bâtiments confisqués, le mobilier confisqué. Il fallait les occuper. Comment? Avec quoi? Il fallait les nourrir, il fallait les loger. Une circulaire de l'époque nous renseigne sur cette situation si dramatique et pourtant vécue dans la foi. L'orage de la persécution est venu s'abattre sur notre congrégation. Jusqu'ici, il n'a rien détruit. Il a seulement transplanté les sujets des diverses maisons dans la maison mère. Là, dans un contact plus intime et plus prolongé, les liens qui nous unissent deviendront plus forts. L'affection plus intense, les fardeaux seront moins lourds, les larmes moins amères. Ne pensez pourtant pas qu'on ne fait que pleurer ici. Chacune s'est mise au travail avec entrain, lingère, brodeuse, raccommodeuse, artiste. Ce qui réconforte les sœurs, c'est la sympathie des populations qui les voient partir. Par exemple, À la Bessonnier, on réquisitionne toutes les voitures disponibles. On les charge de fleurs. Elles sont bondées de monde autant que ça peut être. Et on accompagne les sœurs jusqu'à Roquecourbe. Dans tous les villages où nos sœurs partent, elles ont à peu près les mêmes scènes d'adieu qui se reproduisent. À Navès, le maire du village lui-même les accompagne alors qu'il sait que cette démarche peut être pour lui très compromettante. Il n'est pas question de rester les bras croisés. Il faut agir. Et naturellement, puisque la France nous rejette, on se tourne au-delà des frontières. Mais les sœurs bleues ne sont pas les seules à vivre cette situation. Et les évêques des pays voisins voient d'un œil pas très favorable cet exode vers leur pays. Est-ce qu'on ne va pas faire de tort aux congrégations locales ? Des avances faites en Allemagne, nous avons beaucoup de sœurs alsaciennes à cette époque dans la congrégation, ne donnent pas de résultat. L'empereur Guillaume a interdit l'entrée de toute congrégation sur son pays. L'Angleterre ne veut pas nous ouvrir ses portes. Et la supérieure générale de l'époque dit « Il est souvent plus difficile de connaître son devoir que de l'accomplir. » Alors c'est de l'autre côté des Pyrénées que se tournent les yeux. Que de voyages, que de démarches, jusqu'à obtenir enfin des autorisations pour s'établir en Espagne. Das, Lloret de Mar, La Jonquière, Huesca seront les premières villes espagnoles à nous recevoir. Interdiction nous est faite d'y accepter des élèves natifs du pays. Les sœurs, pour le moment, ne savent pas l'espagnol. Qu'à cela ne tienne, elles partent avec bon nombre de leurs élèves françaises. C'est dire la confiance des familles, l'attachement à l'enseignement dispensé, enseignement chrétien solide. En février de la même année, c'est l'Italie qui ouvre ses portes. Une petite communauté s'installe à Rubiana, dans le nord. Les sœurs y font péniblement une école pour les bambins du village. Puis bientôt s'installe une seconde communauté dans le Piémont. Les sœurs, quand elles arrivent dans ces pays où elles ne connaissent pas la langue, que font-elles ? Cours de couture, cours de dessin, cours de piano. Seulement après, elles peuvent faire un peu plus parce qu'elles apprennent à parler, art d'agrément, etc. Ce qui, très longtemps, a fait penser que nos sœurs étaient uniquement enseignantes et ce qui, parfois, nous a valu un recrutement dans les classes les plus hautes de la société, celles qui aimaient faire apprendre à leurs enfants tous ces arts d'agrément. Les sœurs ont soin, à côté de cela, dont elles ont besoin pour vivre et pour aider à vivre celles qui sont restées à la maison mère, les sœurs ont soin, à côté de cela, de s'occuper des paroisses, de visiter les pauvres, de visiter les malades là où elles sont. En ce même 1904, une ouverture inespérée se fait jour. Les pères du tiers-ordre de la Drèche ont déjà des missions dans le lointain Brésil. Pourquoi, disent-ils, vos sœurs ne viendraient-elles pas ? Ce n'est pas le travail qui manque. Quelques années avant, une proposition avait été faite pour le Brésil et il avait été jugé imprudent d'envoyer des sœurs si loin. Maintenant, on pense que c'est le moment d'y aller. Aux sœurs réunies à la maison mère, la proposition est ainsi faite, telle qu'on la lit dans les archives de la congrégation. On ne sait rien de précis sur le pays. On ne connaît pas ses ressources ni ses difficultés. Il s'agit d'une contrée lointaine, peu accessible. Il faudrait pour le moment 6 volontaires. Et, dit la chronique, 40 mains se lèvent. Région peu accessible. Partie de Bordeaux le 16 août 1904, les 6 élus arrivent à Cuiabá le 26 octobre suivant. Le paraguay qu'il fallait traverser était alors en révolution. Le bateau a été arrêté sur le fleuve, les vents et les orages se sont mis de la partie. La première chose est de se mettre à l'étude de la langue. Et comme en Espagne, comme en Italie, leçons de français, de broderie, de musique. Deux mois après leur arrivée, les sœurs ouvrent une petite école avec 9 pensionnaires, 3 demi-pensionnaires, 12 externes et 15 orphelines. En se rendant au Brésil, les 6 premières voyageuses ont dû faire une escale à Buenos Aires. Là, par un véritable coup de providence, comme le dit la supérieure générale de l'époque, elles rencontrent un prêtre français qui les invite à venir travailler à ses côtés. L'offre est tentante, alors qu'il y a à Castres tant de sœurs inoccupées qui brûlent de servir. L'appel est lancé, la réponse positive arrive, et en décembre 1904, 3 sœurs s'embarquent. Leurs noms sont restés gravés dans toutes nos mémoires, et surtout le fait que, à elles trois, elles n'atteignent pas 80 ans. L'aînée a 29 ans, la seconde 26 et la troisième 21. Une fois encore, on mesure difficilement l'audace, le courage, la foi intrépide que suppose une telle démarche. Jetées dans l'inconnu, dans un pays dont elles ne connaissent ni la langue ni les habitudes, responsables là-bas de porter le cachet propre aux sœurs bleues, il fallait du courage pour prétendre se faire une place, sans ressources, sans protection officielle, sinon celle de Dieu et de la Vierge, si loin de la maison mère dont les lettres mettaient des mois à arriver. Nous mettions en commun notre jeunesse, notre enthousiasme, une entraide fraternelle qui décuplait nos forces, dira l'une des fondatrices. Une lettre nous dit « Les toits délabrés laissaient passer l'eau à profusion et on dormait sous des parapluies. » Et encore, nous n'avions qu'une chaise qu'il fallait emporter partout avec nous. Les débuts sont les mêmes, cours de français, de musique, de dessin, d'art. Mais nous allions aussi faire le catéchisme dans la banlieue pour préparer les enfants à la première communion. Et le dimanche, nous les faisions participer à la messe. On avait soin des familles pauvres que l'on visitait régulièrement, ce qui amenait de temps en temps des baptêmes tardifs ou des régularisations de mariage. Et voilà le résultat des lois françaises d'expulsion. L'épreuve vécue si durement, mais toujours sous le regard de Dieu, n'a pas été vaine. Mère Théodosie, supérieure générale, disait « Nos ennemis veulent notre mort à tout prix. Nous vivrons malgré eux. Nous ferons encore du bien, même à ceux qui nous veulent du mal. Et si nous ne pouvons plus servir notre malheureuse France, nous servirons le bon Dieu et les âmes sur un sol étranger. La terre entière est au Seigneur. » Et elle avait encore cette phrase audacieuse. « Comment me troublerai-je de ce que Dieu fait si j'aime tout ce qu'il fait ? » Tout ce qui nous arrive était décrété de toute éternité. Les décrets des ministres étaient dans les cartons divins avant d'être dans les leurs. En janvier 1905, il semble pourtant que tout va se terminer sur ce sol où est née la congrégation. Nous voilà frappés en plein cœur par la fermeture de notre bien-aimée maison mère et de notre unique maison de Paris. Déjà, les liquidateurs étaient venus à plusieurs reprises pour faire l'inventaire de ce que contenait la maison et surtout savoir ce qu'on y faisait. Une fameuse loi, dite loi d'accroissement, interdisait aux congrégations de se recruter. Et alors que la persécution sévissait, les vocations se présentaient plus nombreuses encore. Dès que le liquidateur apparaissait, novices et postulantes, qui n'avaient pas le droit d'exister, disparaissaient dans les greniers. Elles jouaient à cache-cache avec lui. Combien de fois n'avons-nous pas entendu raconter ces heures héroïques ? On parvient non sans peine à faire reconnaître la maison mère comme lieu d'hospitalisation pour les sœurs qui reviennent des missions. Le sous-préfet est venu, accompagné de l'inspecteur de l'enregistrement et du secrétaire de la sous-préfecture, pour identifier les sœurs qui avaient demandé l'hospitalisation. Malheureusement, un grand nombre sont décédés et plusieurs étaient absentes. Il en reste pourtant une trentaine. Ils ont visité le refuge aussi. Cette œuvre n'existe encore que par miracle, a dit le sous-préfet en sortant. bien que la jouissance de la maison mère, du couvent bleu, comme nous disons, nous ait été laissée, la propriété en est au domaine. Et en 1964, il nous a fallu racheter à prix d'argent ce que la mère de Villeneuve avait fait construire. Elle avait dit « Nous serons là pour toujours ». Le refuge est branlant lui aussi. Le jour vient où on exige de la supérieure qu'elle vide les lieux et sans retard. « Fort bien, dit-elle, j'ai là une trentaine de prostituées, je vous les amène dans la cour de la mairie, vous ferez ce que vous voudrez. »« Non, non, gardez-les, lui dit-on. » Et délai après délai, le refuge résiste à la tempête. Il nous reste donc en France le couvent bleu, le refuge et deux sœurs qui, à Palamini, vivent chez l'habitant. Il faudra attendre 1928 pour que s'ouvrent de nouveau des maisons en France.